France Culture.
Précisément 18h sur France Culture, le journal Julie Paco. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. La sécurité des musées pointée du doigt après le braquage éclair au Louvre ce matin. Un cambriolage de 7 minutes à l'issue duquel les voleurs sont repartis avec une dizaine de bijoux du Second Empire et des joyaux des souverains. 9 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a repris ses frappes sur le sud et le nord de l'enclave en représailles, dit-elle, à des attaques contre ses forces armées. Des frappes qui ont fait au moins 15 morts d'après la défense civile de Gaza. Donald Trump annonce la fin des aides financières américaines à la Colombie. Le président américain accuse le président colombien d'être un baron de la drogue, lequel s'insurge contre le déploiement américain dans les Caraïbes, visant officiellement les narcotrafiquants. Enfin, l'effacement du mot Tibet au musée Guimet suscite toujours l'indignation. Le Dalaï Lama regrette la passivité de Paris face à ce qui constitue un effacement, dit-il, de son pays. Des vitres découpées à la disqueuse, des bijoux d'une valeur inestimable dérobés et une fuite en scooter. Le Louvre a donc été la cible d'un cambriolage spectaculaire ce matin. 3 à 4 malfaiteurs ont pénétré dans la galerie d'Apollon, au premier étage, à l'aide d'une camionnette monte-charge, avant de s'emparer de plusieurs joyaux de la couronne, dont la collection royale de gemmes. L'opération a duré 7 minutes, d'après le ministre de l'Intérieur, qui assure que tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver le butin. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour vol en bande organisée confiée à la BRB, la brigade de répression du banditisme. Reste qu'un tel cambriolage dans le musée le plus grand, le plus visité au monde, a de quoi interpeller et illustre la vulnérabilité des musées français. Bonsoir Servane de Pastre.
Bonsoir.
Alors si Laurent Nunez, nouveau patron de la place Beauvau, rappelle qu'un plan de sécurité a été récemment lancé par la ministre de la Culture, Rachida Dati, syndicats et élus mettent en cause les réductions de personnel qui ont fragilisé la sécurité des musées.
Un braquage à l'aide d'un monte-charge et d'une disqueuse. La méthode est plutôt basique, pointe une source syndicale qui relaie l'inquiétude des salariés. Ils sont trop peu nombreux en salle. Que se serait-il passé si les braqueurs avaient été armés, se demande cette source. Cela fait des mois que les syndicats alertent sur un manque de personnel. Ils se sont d'ailleurs mobilisés au mois de juin dernier. Élise Muller est représentante sud du Louvre.
Si on veut l'ouvrir complètement tel que c'était le cas il y a quelques années, il nous manque au moins 150 emplois. 150 emplois dédiés à la sûreté et à la sécurité. Faute d'effectifs suffisants, on a chanté un nombre de protocoles de sécurité, des dispositifs de qui pouvait approcher ou non de l'établissement. Et en fait, petit à petit, on en arrive à ce que se produise l'impensable.
D'autant que la fréquentation du musée a explosé ces dernières années. Des efforts doivent être faits en matière de sécurisation. C'est aussi le constat de Rachida Dati, la ministre. Le ministre de la Culture s'est exprimé dans le journal de 13h de TF1.
Pendant 40 ans, c'est pas intéressé à la sécurisation de ces grands musées. Et d'ailleurs, la présidente du musée du Louvre, il y a 2 ans, avait saisi le préfet de police pour un audit de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il faut adapter ces musées aux nouvelles formes de criminalité. Aujourd'hui, c'est devenu une criminalité organisée. Ce sont des professionnels. Vous savez que des mesures de sécurisation sont intégrées dans le nouveau grand projet du musée du Louvre qu'a voulu le président de la République.
Ce projet doit aboutir en 2031, mais pour les syndicats, attendre encore 6 ans pour améliorer la sécurité du musée, c'est beaucoup trop au vu de ce qui s'est passé ce matin dans la galerie d'Apollon.
Servane de Pastre, la trêve en péril dans la bande de Gaza. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu dans l'enclave. L'armée israélienne dit avoir répliqué ce matin avec des frappes aériennes après avoir été prise pour cible à Rafah, ce que dément le Hamas. Tandis qu'au nord, 11 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne d'après la défense civile de Gaza. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous.
Correspondant de RFI à Jérusalem pour France Culture, en vigueur depuis 9 jours, peut-on encore parler, Michel, de cesser le feu dans l'enclave ?
Au cœur de ce regain de tension, des Gazaouis armés qui ouvrent le feu sur 3 cibles israéliennes, l'armée israélienne a aussitôt riposté par des frappes aériennes et de l'artillerie, ciblant des infrastructures du Hamas, des bombardements qui se poursuivent en ce moment encore. Un porte-parole qualifie l'incident de violation grave de l'accord et d'un franchissement de la ligne jaune de repli. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné d'agir de manière forte et son ministre de la Défense, Israël Katz, menace, lui, de faire payer au Hamas un lourd tribut en cas de nouvelles violations. Le gouvernement israélien insiste sur le fait que l'accord n'est pas annulé Et de son côté, le Hamas nie toute implication dans l'attaque, affirmant son engagement total à la trêve. Tidance ou non, l'organisation palestinienne a annoncé qu'elle remettrait un corps d'otage retrouvé cet après-midi si les conditions sur le terrain le permettent. Et c'est ce contexte tendu qui sera au centre des discussions de l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, qui est attendu demain en Israël.
Michel Paul, Jérusalem pour France Culture. 20 employés de l'ONU sont toujours détenus par les rebelles Houthis au Yémen. Au lendemain d'un nouveau raid visant le personnel onusien présent dans la capitale Sanaa, contrôlé par les insurgés, 5 membres du personnel national de l'ONU et 15 internationaux sont depuis détenus, d'après l'ONU, dont des dizaines de membres ont été arrêtés ces derniers mois dans les régions contrôlées par les rebelles yéménites soutenus par l'Iran. Accusant le président colombien de ne pas suffisamment lutter contre le narcotrafic, eh bien Donald Trump met un terme au versement d'aide financière à la Colombie. Comme à l'accoutumée, l'annonce du président américain a été faite aujourd'hui sur son réseau social Truth Social. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Julie.
Alors quelques heures plus tôt, le président colombien Gustavo Petro a accusé les États-Unis d'avoir violé l'espace maritime de son pays et d'avoir tué un pêcheur lors d'une opération contre les narcotrafiquants.
Oui, c'était le 15 septembre dernier lors d'une de ces opérations militaire menée par des avions et des bateaux de l'armée américaine. Ce jour-là, comme à 6 autres reprises depuis le début du mois de septembre, avec la dernière opération qui a été menée ce vendredi, eh bien les Américains ont frappé et coulé un bateau qu'ils soupçonnaient de transporter du fentanyl, cet opioïde qui fait des ravages aux États-Unis. Ces frappes ont déjà fait une trentaine de morts au moins, sauf que ce jour-là, selon le président colombien, les Américains se sont rendus coupables d'un assassinat, donc de ce pêcheur colombien, dans les eaux territoriales de la Colombie, accusé très graves qui n'ont pas du tout plu à Donald Trump. Il accuse donc en retour Gustavo Petro d'être rien de moins qu'un baron de la drogue financé par les narcotrafiquants qu'il est censé combattre. Combattre d'ailleurs avec des fonds américains, puisque sur les 740 millions de dollars d'aide versés par les États-Unis à la Colombie en 2023, environ la moitié était destinée à combattre justement les trafics. Et c'est vrai que malgré tout ça, le pays sud-américain reste le premier producteur mondial de cocaïne, 53% de la production mondiale de cette drogue. Ce qui est vrai aussi, c'est que depuis un mois et demi, les États-Unis mènent en mer des Caraïbes des opérations militaires sans réel cadre juridique. L'administration Trump affirme être en guerre contre les cartels soutenus par le régime vénézuélien de Nicolas Maduro, mais elle peine à en apporter la preuve. Gustavo Petro, lui, est l'un des derniers présidents de gauche d'un continent qui, à l'image de la Bolivie ce dimanche, est mis sous pression par les États-Unis pour élire un à un des dirigeants bien plus compatibles avec Donald Trump.
Camille Magnard, rédaction internationale de Radio France. Veillée d'armes à l'Assemblée nationale, où sera examiné le budget en commission des finances dès demain matin, 9h, et sa partie 1 consacrée aux recettes de l'État. 1800 amendements ont été déposés par les groupes parlementaires. Ils devront être examinés avant vendredi et l'arrivée du texte dans l'hémicycle. Or, les débats s'annoncent tumultueux, le gouvernement ayant promis de renoncer à l'article 49.3. Les oppositions vont donc tout faire pour faire adopter leurs amendements. C'est un autre musée parisien au cœur d'une autre polémique depuis plus d'un an. Le musée Guimet est accusé d'avoir voulu satisfaire les demandes de Pékin en remplaçant le terme Tibet par celui de monde himalayen dans ses allées. Un changement opéré l'année dernière lors du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Alors après la montée au créneau des universitaires tibétologues, après l'alerte lancée depuis Genève par la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits culturels, c'est au tour de l'entourage du Dalai Lama de faire connaître son sentiment sur cette affaire, à travers notamment la voix de son ancien Premier ministre présent cette semaine à Paris, Nathanaël Charbonnier.
Il s'appelle Lobsang Sangye. Il a été élu démocratiquement président de l'administration tibétaine en exil et a exercé 2 mandats entre 2011 et 2021. C'est un proche du Dalai Lama et il l'affirme, le leader des Tibétains est au courant de l'affaire du musée Guimet.
Oui, bien sûr, il est au courant de la question du musée. Je peux vous le dire, il est également très triste. Parce que, vous savez, même si la France ne peut pas nous soutenir publiquement, vous ne pouvez pas pour autant nous abandonner.
Et Lobsang Sangye de rappeler l'histoire avec ces présidents français qui ont soutenu le Dalai Lama et le Tibet.
Certains des grands présidents français comme Mitterrand ou Jacques Chirac ont rencontré le Dalai Lama et ont défendu sa cause. Et quand ils ont rencontré par exemple Jiang Zemin, ils ont parlé pendant parfois 40 à 45 minutes du Dalai Lama et du Tibet.
L'ancien Premier ministre de chercher à comprendre également comment le musée Guimet peut aujourd'hui participer de l'effacement de son pays.
Ils veulent effacer le mot Tibet et que cela se fasse dans un musée financé par la France, c'est choquant.
Et Lobsang Sangay de rappeler enfin que depuis toujours le Tibet a reçu également le soutien des chercheurs français.
La météo de votre lundi matin avec des pluies marquées attendues sur le sud-est du pays tandis que les averses se succéderont sur le nord-ouest. Le ciel restera couvert de la Nouvelle-Aquitaine aux frontières de l'Est. Les minimales affichent 10 à 15 degrés en moyenne au réveil et sur le nord 14 à 18 dans le sud-est du pays. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau d'Alia à la technique.